Bienvenue à Sur la ligne, ce radio-podcast tout tennis. Cette semaine, on parle évidemment de Félix Auger-Aliassime qui a ajouté un titre à sa fiche au Mexique. On a quatre Canadiennes dans le tableau principal. On va aussi regarder ce qui va se passer chez nous du côté du Saguenay. Et Daniel Nestor est considéré pour le temple de la renommée du tennis. Nicolas Richard, bonjour. Hugues Léger, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
Ok, oui.
C'est parti!
Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est diffusé sur toutes les plateformes de balado. On est également au BPM Sport qui est rendu réseau au Québec, à Gatineau, à Québec et à Montréal. Nicolas Richard, comment te portes-tu en direct de ton Saint-Jérôme traditionnel?
Ça va très, très bien. Il se passe beaucoup de choses. Qui a dit qu'il n'y avait pas du bon tennis l'automne? Ce qu'on vit actuellement, c'est complètement dingue. Puis je suis heureux qu'on puisse en parler parce que la saison ne se termine pas avec le US Open.
C'est drôle, hein? Je me suis prêté exactement la même réflexion cette semaine en me disant c'est drôle parce qu'on parle souvent, bon, après le US Open, il y a comme souvent pour le fan traditionnel un petit down, mais là, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées depuis, que ce soit la Coupe Laver, la Coupe Davis, et puis là, ben Félix qui remporte un autre titre. Ouais, c'est beaucoup c'est le fun ce qui se passe présentement en tennis d'automne, tu fais bien de le souligner. Hugues Léger, comment vas-tu? On est en direct de l'Hôtel Montville, toi et moi, où j'ai déjeuné d'ailleurs, encore une fois, un excellent déjeuner, des œufs saucisses. Là. Après, je l'ai dit, j'ai commencé la boxe. J'allais faire un petit entraînement de boxe. Un petit déjeuner au Montville, là, ça part bien une journée.
Tu fais bien de prendre des protéines, Alex. Il faut bien récupérer d'une longue session de boxe. Ça va bien. Bien. Moi aussi, je parlais avec Jean-Charles Lajoie, notre collègue de BPM Sport ce matin, puis je trouvais ça le fun de célébrer des victoires montréalaise tant au soccer qu'au tennis ce matin. Et puis effectivement, 17 octobre, c'est pas une habitude. Donc, bon feeling. Puis effectivement, Félix qui confirme son premier titre de l'année à Rotterdam avec un deuxième à Florence. Semaine complètement maîtrisée. Il a échappé un seul petit set durant toute la semaine lors de son match de premier tour. Ça va bien cette fin de saison pour Félix là, qui est sur le point de se qualifier pour les finales de l'ATP. Mais tout comme vous, j'apprécie beaucoup la saison de tennis automnale cette année.
Ouais, ben c'est vraiment ça qui est intéressant. Puis c'est drôle, Nico, que tu as dit ça parce que je me suis prêté exactement la même réflexion. Et j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup, en tout cas d'un point de vue canadien, en tout cas, beaucoup de tennis intéressant à suivre dans les prochaines semaines parce que Félix est dans la race. On va en parler un peu plus tard, là, mais je pense qu'il a l'intention de jouer à tous les semaines d'ici Paris. Là, je l'entendais parler à la radio ce matin au 98.5, puis parlait de qu'il allait jouer probablement à Ball va jouer également à Anvers cette semaine et puis ben après ça, Paris. Alors, il a un horaire chargé pour pouvoir peut-être se qualifier d'ici au tournoi de fin d'année. Là, il reste encore beaucoup de points, mais il est en bonne position. Parlons-en là, de ce tournoi-là de Félix. C'est drôle parce que, Hugues, je vais commencer avec toi. Tu sais, il y a quelques semaines, j'ai dit, bon, est-ce que le match de Novak contre Félix c'était à prendre à la légère ou pas? Puis honnêtement, avec du recul, je pense qu'on a vu un Félix dominant. Il vient de remporter un tournoi. Sa victoire contre Alcaraz, il est sur une lancée. Il confirme cette lancée-là.
Absolument. Je suis convaincu, moi, que la victoire contre Djokovic à la Laver Cup, il l'a mérité à 100%. Il était le meilleur joueur sur le terrain ce jour-là. Même si Novak est en grande forme en ce moment, on le sait, il vient de gagner deux titres coup sur coup. Un autre signe pour moi qui confirme là où est rendu Félix, c'est sa victoire contre Lorenzo Musetti en demi-finale, qui a balayé, il faut le dire, 6-3, 6-2, victoire facile. Et Musetti avait une fiche gagnante contre Félix avant ce match-là, donc 1-2. Et là, Félix vient d'égaler à 2-2 avec cette victoire en demi-finale contre le favori local à Florence. Donc, Félix va très bien en ce moment. Il mérite entièrement ce qui lui arrive. Mais tu l'as dit, Alex, c'est pas quand même assuré pour les finales de l'ATP. Il y a Urkacz qui souffle dans son dos en ce moment, qui est huitième. Urkacz qui sera le premier favori cette semaine aussi à Anvers, là où jouera Félix aussi. Donc, c'est pas gagné. Et Félix, met le paquet, effectivement, semaine après semaine. On va le voir sur les terrains pour aller chercher cette qualification pour les finales de l'ATP.
Nico, commentaire sur ce titre-là de Félix Auger-Aliassime?
Ouais, mais je trouve que lorsqu'on regarde avec un peu de recul cette saison de Félix, c'est une saison de construction, d'apprentissage et d'accomplissement. Parce que rappelez-vous, en début de saison, il avait fixé 3 objectifs. Gagner un tournoi, être dans le top 10 et participer au final de l'ATP. Il est sur le point de réaliser les 3. Et lorsqu'on regarde sa fiche, rappelez-vous qu'il a livré et qu'il a joué des matchs absolument extraordinaires. Ça avait commencé en Australie, ATP Cup et Omnium d'Australie, Zverev, Medvedev. Ensuite, sur terre battue, Nadal, Djoko. Et là, dans les tournois de fin de saison, Djokovic, Alcaraz. Je pense que Félix, cette année, il l'a prouvé hier. Puis tu sais, je veux tout de suite éliminer le fait que c'est un 250. Là. Je pense que ce titre-là n'est pas moins important parce que c'est un calibre 250. Là. Il a gagné chacun de ses matchs avec brio.
C'est difficile de gagner des challengers.
Exactement. Alors, de voir que Félix est rendu là, parce que c'est en début de saison, on se dit, OK, est-ce qu'il est vraiment rendu là? Est-ce qu'il est dans l'élite? Est-ce qu'il a sa place pour rester dans le top 10? Là, je pense que oui. Cette affaire-là, là, d'avoir perdu 9 finales, pour moi, c'est du passé. C'est plus valide, c'est plus cohérent. Maintenant, il a gagné 2 finales dans la même année. Il a joué de grands matchs. Il est sur le point de participer au final de l'ATP. Il est de retour dans le top 10. Donc, cette victoire-là, qui était, oui, contre J.J. Wolf, qui n'est pas un vilain joueur, qui est 75e, a quand même une immense importance. Donc, de finir comme ça, pour moi, c'est que du positif pour Félix.
Mais comme... Ouais, vas-y, Hugues.
Ouais, puis c'est ça. Oublions pas que... on disait à Ordon, les gars, c'est l'année de confirmation. C'est exactement ça, je pense, pour Félix, qui se passe en ce moment. Si l'année 2020 a été l'année de l'éclosion, 2021, 2022 est l'année de la confirmation. Et effectivement, Nico, tu soulignes très justement qu'il va atteindre probablement ses 3 objectifs majeurs pour cette année. C'est vraiment une grande réussite. Oublions pas aussi, les gars, qu'après Alcaraz, il reste le 2e plus jeune joueur du top 10 à 22 ans en ce moment. Donc, Félix remplit tous les espoirs qu'on pouvait avoir en lui de très belle façon. Puis vous avez raison aussi, le fait qu'il gagne un 250, c'est plus ou moins important quelque part. Il a gagné un tournoi important. Je le répète, il a battu Musetti, qui est quand même un excellent joueur en demi-finale. Donc, tout baigne pour Félix en ce moment. Puis il a pris de la maturité. Il a appris de ses défaites en finale, des moments plus difficiles qu'il a pu vivre. Et je pense qu'il se construit une carapace de grand champion semaine après semaine.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, Nico. J'avais l'impression que tu étais assis entre moi et Hugues avant qu'on rentre en onde parce que, 5 minutes avant, on se disait, je pense que c'est l'année de la confirmation pour Félix. C'est exactement ça qu'on se disait. Puis tu parlais effectivement de J.J. Wolf, mais la victoire où il a détruit Musetti en demi-finale, c'est là que ça s'est joué. Et Musetti, on sait, c'est un autre excellent jeune joueur. On sait à quel point le tennis italien est fort présentement. Dans le cas de... c'est pas une victoire à prendre à la légère. Puis, messieurs, il y a Dominique Santerre qui nous demande, est-ce qu'il pourra finir dans le top 8 de l'année? Là, la question, Dominique, c'est ça dépend si vous parlez du top 8 du classement général ou le top 8 pour le tournoi de fin de saison, parce que ça sera pas exactement la même chose. Là. Le top 8 pour le tournoi de fin de saison, il est plus facile à calculer parce qu'on n'a pas besoin de faire la différence entre les points à défendre et les points qu'il va gagner. Puis je me souviens pas exactement de la fin de saison de Félix, ça brûle pour points comme ça. Mais supposons au classement top 10 et pour le tournoi de fin de saison, messieurs, est-ce que Félix peut terminer dans le top 8 pour les 2 classements d'ici la fin de la saison?
Mais je pense que oui, parce que si on s'attarde simplement à la race, là, ce dont on parle souvent pour les finales de l'ATP, il est présentement 7e, il va jouer en Belgique et son plus proche poursuivant, Taylor Fritz, n'a rien au calendrier cette semaine. Donc, si Félix peut engranger des points, quitte encore une fois à gagner le tournoi, qui est un 250, qui est, bon, on le sait, un petit peu moins de joueurs, un petit peu moins de haut calibre, c'est prenable pour Félix. Alors, s'il peut engranger des points là, ce serait génial, d'autant plus que celui qui le suit après Fritz, c'est Hubert Hurkacz, qui lui aussi participera au tournoi en Belgique. Alors, s'il y a un duel entre les deux, c'est peut-être là que la race va se jouer. Ensuite, pour ce qui est du top 8 général, lorsqu'on regarde le classement de l'ATP, il y a Fritz devant lui, on vient de le dire, pourrait peut-être le dépasser. Il y a seulement 40 points de différence au classement. Après, c'est Rublev qui vient de gagner un tournoi lui aussi, donc ce sera plus ardu de dépasser Rublev, mais certainement Félix peut s'approcher du 9e, voire du 8e rang.
Hugues,
Oui, pour moi, la même chose. Je pense que là, ce qui est le plus important pour lui, c'est de confirmer sa qualification pour les finales de l'ATP. Donc, c'est pour ça qu'il va jouer beaucoup. Donc, je pense qu'il va y arriver. Donc, 8 premiers pour la race, c'est son focus majeur en ce moment. Et s'il performe bien pour la race, ben ses points ATP vont aussi monter. Je pense pas qu'il y avait la même cadence en fin d'année 2021, semaine après semaine. Là, ça, c'est il se taxe physiquement pour aller chercher ses points pour la race et être qualifié pour les finales de l'ATP. Donc, je pense qu'il va s'assurer par le fait même de finir dans le top 10 de l'ATP là, au classement général. Donc, ça augure bien. Je dirais top 8 pour la race, oui, et top 10 pour l'ATP, oui aussi. Peut-être pas beaucoup plus haut, peut-être 9 s'il va bien, s'il se rend loin à Paris au Masters 1000 qui commencera le 31 octobre. Mais ça va bien. Puis moi, entre 8 et 10 pour le classement ATP, ça ne change pas grand-chose en fait.
Non, exact. Je regarde, messieurs, sa fiche en 2021 pour répondre à votre question, là, à Dominique. Bon, il a à la fin octobre l'an passé, il a fait des quarts de finale à Vienne. Il a fait un deuxième tour par la suite au début novembre à Paris. Et à la fin novembre, il a joué Stockholm, il a fait une demi-finale. Alors, il a quand même quelques points à défendre, mais le gros tournoi à Paris, il a pas beaucoup tant de points que ça à défendre, pourrait très bien se rendre encore ou en demi, exact. Peut-être même en finale. Alors, mon feeling, c'est qu'il a, bon, il faut effectivement calculer là, tout ce qui se passe au niveau du restant des joueurs, là, mais il a des points à aller chercher. C'est pas indéfendable ce qu'il a à aller chercher là, en termes de points. Alors, ça se pourrait très bien qu'on le retrouve dans le top 8, autant du côté de la race que du classement général de l'ATP. Et ce sera bien mérité. Cela dit, l'année prochaine, en début de saison, il aura beaucoup de points à défendre parce que comme tu le soulignais si bien, il a connu un début de saison absolument phénoménal. Il était peut-être le 2 ou le 3e meilleur joueur au monde là, derrière peut-être Rafael Nadal là, et Rublev aussi, je pense qu'il a connu un bon début de saison, là, si je ne me trompe pas. Là. Alors, je ne sais pas. J'espère que ça répond à la question. Dominique nous dit merci. Mais messieurs, si je vous le demande, franchement, là, au moment où on se parle, évidemment, il a son sort entre les mains pour la race. Est-ce que Félix Auger-Aliassime va faire partie du tournoi de fin de saison, Nico?
Oui, sans aucun doute. Parce qu'il va engranger les points, ça peut juste bien aller. Je ne vois pas qui pourrait le ralentir présentement. Il va tellement bien que pour moi, c'est un automatisme.
Je le pense aussi. Puis on a souvent parlé, Félix joue de mieux en mieux quand il est sur un momentum. Et là, il est sur un momentum de victoire en ce moment. Quand il a passé son premier tour contre Allemand... à Florence, c'était parti. Il a pu échapper un set par la suite. Et là, le fait qu'il va enchaîner les tournois semaine après semaine, je pense qu'il va avoir justement ce momentum. Il va aborder ces dernières semaines avec beaucoup de confiance. Je suis convaincu, moi aussi, qu'il fait les finales d'ATP cette année.
Et les gars, il ne faut pas oublier, là, si je ne m'abuse, le tournoi de Belgique se joue aussi en intérieur. Oui. Et Félix va très, très bien en intérieur. Oui, oui. C'est lui qui a le plus de victoires cette année. Il a 2 titres en intérieur, donc ça peut peut-être aussi jouer à l'avantage du Québécois.
La seule chose qu'il ne faut pas oublier, il est 7e présentement à la race, mais Novak est au 10e rang présentement, mais déjà qualifié. Alors, ça veut dire qu'il est virtuellement 8e. Alors, il est sur le point d'être, entre guillemets, ce qu'on appelle un alternate, là, un suppléant, parce que je pense qu'on amène 10 joueurs, hein, si je me trompe pas. Il y a deux joueurs qui peuvent être suppléants au tournoi. Là. Alors, il faut garder en tête que, bon, oui, il a un peu son sort entre ses mains du fait qu'il est, bon, dans les 7 et 8e positions, là, présentement virtuellement 8. Il a son sort entre ses mains. Alors, s'il fait bien, théoriquement, ça devrait passer, mais il reste qu'il n'y a pas 2 places disponibles présentement pour lui. Il n'y en a qu'une seule, à moins qu'il avance significativement dans les tournois, dans les prochains tournois et qu'il engrange beaucoup de points.
Attends, je vérifie en même temps au niveau du classement de la race. Là. Oubliez pas qu'il y a dans ce classement-là... Je fais le tour. Non, tous les joueurs peuvent encore être là. Je voulais voir si Zverev était là. Zverev est 11e en ce moment. Évidemment, fera plus de points. Mais effectivement, en ce moment, il ne faut pas oublier que Djokovic va faire partie des finales de l'ATP. Puis à moins de blessures, là, tous les joueurs seront présents.
Il y a une place disponible. Il y a une place disponible.
Oui, exact.
Cela dit, sa victoire avec ce tournoi-là l'a replacé un peu dans la course pour rattraper les gens un peu devant lui. Mm-hmm. Il est à 400 points derrière, un peu moins de 400 points derrière Rublev et bon environ 500 points derrière Daniil Medvedev. Évidemment, c'est beaucoup de points, mais s'il fallait qu'à Paris, il aille chercher une demi-finale ou une finale, ben honnêtement, s'il fait une finale à Paris, ce sera presque, ce sera mission accomplie, là, je pense. Je voudrais faire le calcul, là, mais je serais surpris que si ça rendait loin à Paris, ça confirmerait pas les choses. Enfin, c'est ce que la nuance que je voulais apporter, c'est le fait que ben, Novak Djokovic, il est virtuellement qualifié, même s'il est en 10e position. Alors, effectivement, Nico, comme tu le dis, il reste une place de disponible pour lui. Commentaire de plus, messieurs, sur cette performance de Félix cette semaine et le regard sur la race?
Ben, juste brièvement, juste peut-être donner un petit peu d'attention à J.J. Wolf, qui a pas été mauvais, mais qui, je trouve, a beaucoup de potentiel. J'avais un petit bout que je l'avais pas vu jouer, Wolf, là. Puis Hugues, là, en tant que technicien, un petit peu, vu que tu joues comme moi, là, Wolf a un coup droit puissant, mais très
foudroyant,
dans la mesure où il prend sa motion tellement ample qu'il est capable, après ça, de frapper extrêmement à plat pour envoyer des flèches. Honnêtement, tu sais, même on voyait la comparaison au service, à peu près les mêmes vitesses. Alors, lorsqu'on sait que Félix est l'un des meilleurs serveurs sur le circuit, que J.J. Wolf serve ainsi, les 73, 60, il était 75e hier, là, mais vraiment un beau futur. Un autre Américain, les gars, qui cogne à la porte du top 50.
Oui, il m'a impressionné, Wolf. Je le connaissais pas beaucoup avant le match d'hier. Là. J'ai bien regardé son match. Effectivement, il claque la balle très solide. Je trouvais même que le bruit que ça faisait était un peu trompeur au niveau de ses premières balles. Très, très bon service. Puis effectivement, tu parles du mouvement ample. Je vais faire un petit point technique là sur ça en ce moment. Il y a ce qu'on appelle le modern forehand. C'est ce que les joueurs utilisent beaucoup en ce moment. Kyrgios est un bon exemple. C'est le coude qui recule beaucoup avec la tête de raquette qui fait face au terrain. Et quand ils descendent vers la balle, ils vont claquer avec un coup de poignet qui fait que ça accélère très vite. Mais cette amplitude, on la voit de plus en plus en ce moment. Donc, J.J. Wolf fait vraiment cette motion au niveau du coup droit. Encore, comme beaucoup de jeunes, il doit stabiliser son jeu un petit peu. Mais il y a un jeu qui est déjà impressionnant. Puis ça me rappelle un peu ce qu'on voit d'un Tiafoe. Vraiment, l'école américaine en ce moment là est sur une super lancée là, avec de la relève en plus.
Si vous connaissez pas trop J.J. Wolf, c'est normal d'une certaine manière parce qu'il, surtout, c'est un joueur de Challenger qui joue pour l'essentiel des Challengers. Cela dit, cette année, à Washington, souvenez-vous, il avait battu Shapovalov et Rune dans ce même tournoi-là. Alors, c'est un gars qui avait quand même déjà des repères. Félix pouvait pas le prendre à la légère. Puis d'ailleurs, en entrevue, Félix, ce matin, disait « C'est un gars que j'avais sur mon radar. » Même si, bon, on l'avait jamais joué, c'est un gars qui suivait. En tout cas, messieurs, moi, j'étais bien content d'être abonné à Tennis TV pour pouvoir écouter ce match-là parce que, c'est ça, c'est un peu dommage que Félix était pas disponible sur les canaux traditionnels, du coup.
Ouais, on en parlait, là, c'est un petit peu dommage là, que des réseaux comme RDS, notamment, et TSN, qui ont les droits de diffusion de l'ATP et qui ont plusieurs canaux, là, notamment TSN qui a 5 canaux, n'aient pas pu diffuser les matchs le match de Félix. Oui, il y a Tennis TV qui est une alternative que la plupart des amateurs connaissent, mais je me place dans les souliers de personnes peut-être plus âgées qui n'ont pas le réflexe d'aller sur Internet ou de s'acheter un abonnement. D'avoir un Québécois dont on parle de plus en plus, dont tout le monde se targue d'aimer et de suivre, mais lorsqu'il fait une finale et qu'il a une excellente chance de gagner, là, rien contre J.J. Wolf, mais les chances étaient extrêmement bonnes que Félix gagne cette finale-là. J'aurais aimé, pour Félix, mais pour le tennis aussi, qu'on puisse se revirer sur un 10e et présenter ce match-là. On donnait l'exemple tantôt de TVA Sport, qui, lorsque Eugénie a fait une finale en Israël, qui est un tournoi qu'on ne suivait à peu près pas, ben, on trouvait le moyen, à la dernière minute, de changer leur position et de présenter cette finale-là. Donc, je trouvais dommage que la finale de notre Québécois soit uniquement diffusée sur le web.
Opportunité ratée, selon moi, de la part du diffuseur qui avait les droits pour le match d'hier. Une finale de Félix, un Québécois dans le top 10, en course pour les finales de l'ATP. Effectivement, tout le monde est content de parler de Félix au Québec dans les médias sportifs, mais il faut lui donner cette visibilité-là lorsqu'il fait une finale pour aller chercher un titre qu'il a fait hier. Et je reviens sur J.J. Wolf. Les gars, il est passé en début d'année de la 210e position. Là, il est rendu 56e. C'est un joueur qui est en pleine progression, là. Donc, c'était pas un client si facile que ça pour la finale. Et on va continuer de voir monter. Mais c'était une finale qui méritait une diffusion hier. Oublions pas toutefois que Florence est un nouveau tournoi au calendrier. Donc, à la décharge de quelques diffuseurs. Cela dit, tout le monde a vu la progression de Félix cette semaine. Il y avait moyen de s'organiser pour diffuser ce match-là. Oui, c'était jour de NFL hier. Beaucoup d'activités, évidemment, dans le calendrier sportif en ce moment. Mais quand un Québécois joue en finale d'un tournoi ATP, il faut trouver une façon de le diffuser. Et les cotes d'écoute seront bonnes. Le tennis est regardé et aimé au Québec. Donc, il n'y a pas de problème au niveau des cotes d'écoute qu'on va chercher quand un joueur ou une joueuse québécoise est en finale.
Cela dit, Hugues, si je me fais l'avocat du diable pour ce réseau de télé-là, d'une part, c'est difficile de changer la grille horaire à la dernière minute, de faire rentrer du staff. Puis, je pense aussi que même si les codes d'écoute sont au rendez-vous, tu peux virtuellement pas vendre ton émission parce que t'as pas eu le temps de la vendre parce que c'était pas prévu à la grille horaire. Alors, la seule chose que tu peux faire, c'est les ajouter à tes chiffres tennis d'ici la fin de l'année, là. Je sais pas jusqu'à quel point c'est rentable un dimanche matin, même si t'as Félix à 9h le matin quand t'as pas eu le temps de faire la promotion puis tu t'es retourné à la dernière minute, là.
Ben, ça, c'est l'avocat du diable. Évidemment, il y a les contrats de vente publicitaire qui sont confirmé pour certains types de contenus, mais tous les réseaux ont accès à au minimum 2 chaînes, sinon 3 ou 4. Il y en a certaines qui sont pas vendues à leur plein potentiel durant ces heures-là, même si on change le contenu. Et même là, sur un 24 heures, on peut aller chercher un annonceur qui va être intéressé pour un tournoi. Effectivement, c'est de booker l'équipe de diffusion. C'est pas toujours facile. Je le sais, hein, j'ai été dans ce poste-là, d'aller chercher ton play-by-play et ton analyste avec très peu de marge. Mais je pense que l'engagement que les réseaux prennent avec le tennis doit se vivre par ce genre d'événement-là aussi, et pas seulement les plus gros événements durant l'année.
Puis si tu développes le réflexe aussi de dire, ben regarde, s'il y a un gros événement, on va être là, ben le monde, ils vont être pas mal plus au rendez-vous que si tu le fais jamais, là.
Garanti, puis je le dis, si c'est annoncé sur les réseaux sociaux, à moins de 24 heures, les gens vont être là quand même parce que il y a une soif de contenu tennis au Québec. Donc, il n'y aura jamais de problème de code d'écoute.
Puis on jase, là, mais mettons, t'as pas de place dans ta grille horaire, puis c'est vraiment compliqué de changer ta grille horaire. Sac-moi ça sur Internet.
Exact.
C'est le monde, ils vont être au rendez-vous. Là. À Star, tu peux plugger ton YouTube, ton Facebook sur ta télé, il n'y en a plus de problème. Là. C'est pas pour une grande partie de la population, en tout cas, c'est pas un problème.
Écoutez, les gars, mais je vais rajouter un dernier point là-dessus. C'est pour ça que vous, comme moi, on est abonnés à ATP Tennis TV et qu'on s'assure de rien manquer. C'est le meilleur moyen. Et quand je vous disais hier, je regardais les faits saillants au bulletin sportif des réseaux, notamment Radio-Canada, c'était les images d'ATP Tennis TV qui ont été mises de l'avant, sans commentaire. Les amateurs de tennis vont trouver le contenu là où ils se trouvent. Et s'il y a des diffuseurs locaux qui perdent des abonnés, ben c'est un peu pour ces situations-là.
Ben voilà, on a fait le tour de la question. C'est pas de lancer tout le monde en dessous de l'autobus, mais c'est sûr que comme amateur de tennis, puis on souhaite que ça se fasse chez nous aussi, d'un point de vue québécois également. Là, c'est sûr que c'est ce qu'on souhaite, canadien à tout le moins, si c'est pas québécois. Mais si on va faire une courte pause au retour, on va regarder ce qui va se passer du côté du Mexique, parce que parlant du Canada, il y a beaucoup de Canadiennes dans le tableau principal à Guadalajara, le terrain préféré de Nicolas Richard puisqu'il est rose. On s'en reparle après la pause.
Séjournez dans l'une des magnifiques suites de l'hôtel Montville et profitez d'un rabais de 30% sur votre deuxième nuitée. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver. Venez prendre un verre au bar et restaurant Monem de l'hôtel Montville. De nombreux cocktails signatures conçus pour la saison d'automne vous y attendent. Découvrez le menu sur le site hotelmontville.com.
Thank you. Messieurs, de retour en direct, justement, de l'hôtel Montville où j'ai pris un merveilleux petit déjeuner. C'est tellement un bel hôtel, honnêtement. Si vous êtes jamais venu faire un tour ici en direct du centre-ville de Montréal, là, Hugues, à quel point c'est bien situé. La boulangerie est juste à côté. Que, quand tu rentres là, ça sent le bonheur à plein nez. Là. Et puis, comme je disais, c'est super bien situé. Qui nous accueille à chaque semaine. Quoi dire de plus? Honnêtement, c'est un endroit incroyable. Même j'ai travaillé ici ce matin. Toi aussi, tu travailles ici. Si vous voulez travailler, sortir, peu importe, c'est l'hôtel Montville, ça a bien du sens pour toutes vos activités. Je ne sais pas, tu veux rajouter quelque chose, Hugues?
Ben non, je pense qu'on a bien couvert le sujet. Je pense que t'es à fond sur la promo aujourd'hui, mon cher.
Ben écoute, ça me fait plaisir de le faire parce que tu sais, je ne le dirais pas si je ne le pensais pas. Là.
Oui, c'est important de le dire. C'est un partenaire de la première heure, le Montville, donc on est très content d'en parler. Puis c'est effectivement un très, très bel endroit au centre-ville.
Tu sais, je suis arrivé, il était 8h15 ce matin, puis j'ai fait quasiment 3-4 heures de travail ici avant qu'on fasse le podcast. Alors, tu sais, c'est un environnement où c'est plaisant d'être, puis ça me fait absolument plaisir de leur faire la plug, honnêtement, puisqu'on y est. Messieurs, parlons maintenant, passons de Montréal au Mexique, puisqu'on a 4 Canadiennes en action du côté de Guadalajara. D'ailleurs, ça doit faire un bon petit bout là, qu'on n'a pas vu 4 Canadiennes dans le tableau principal en même temps, puisque, bon, Rebecca y est, Eugénie y est, Bianca y est et Leila Annie Fernandez y est. D'ailleurs, c'est un tableau que vous pouviez faire dans le jeu des prédictions de Tennis Canada. Messieurs, on en parlait tout à l'heure de ce jeu des prédictions-là. Mais Nico, je ne sais pas si tu as eu le temps de voir le tableau. Ben, tiens, je vais commencer avec Hugues. C'est un tableau particulièrement relevé à Guadalajara. C'est un niveau 1000, un tournoi qui a augmenté de niveau.
Oui, exactement. C'est un tournoi, évidemment, on sait que la WTA, dans la foulée de l'affaire Feng Shui, boycotte la série de tournois en Asie. Et donc, Guadalajara a été surclassé en WTA 1000, ce qui n'était pas le cas en 2021. Donc, je regardais le tableau, au moment des prédictions, je me dis « Wow, c'est vraiment fort cette année, puis c'est un gros tableau. » Je n'avais pas réalisé qu'il était passé en WTA 1000. Donc, c'est pour ça qu'il remplace un des tournois qui était joué en Chine l'an passé. Donc, très, très beau tableau. 4 Canadiennes dans le tableau principal. Une wildcard, un laissé-passer pour le tableau principal pour Eugénie Bouchard, qu'on devra regarder avec attention. N'oubliez pas qu'elle était finaliste l'an passé à ce tournoi-là, donc elle arrive dans des belles conditions et elle va vouloir aller chercher les points qu'elle a fait l'an passé et plus parce qu'on passe en WTA 1000 cette année. Mais c'est du bonbon ce tournoi, ce tournoi-là. Le dernier grand tournoi féminin avant les finales de la WTA qui seront à Fort Worth, au Texas cette année, à la fin du mois. Mais on est servi avec nos 4 Canadiennes, là, Bianca, Leila, Rebecca Marino et Eugénie Bouchard.
Il n'y a que les États-Unis et la République tchèque qui ont plus de représentants dans ce tournoi-là. 7 de la République tchèque, et là j'inclus les qualifs, là, et 12 représentantes des États-Unis. Alors, c'est une excellente performance pour le Canada. Déjà, en partant, ce qu'il faut rappeler aussi, tu soulignais que ça a passé au statut de WTA 1000, en raison de tout ce qui se passe en Asie. L'année passée, Guadalajara avait accueilli les finales de la WTA, justement dans la foulée de l'affaire Peng Shui, parce qu'on avait refusé d'aller, c'est à Shenzhen, je pense que c'était
exact.
Prévu.
Exact.
Et cette année, ce sera évidemment au Texas, on l'a annoncé un peu plus tôt cette année, mais je pense que c'est bien mérité parce que ce tournoi-là avait reçu de critiques très, très, très positives sur la tenue de l'événement l'an passé. Nico, je sais que tu n'es pas le plus grand fan du terrain rose, mais est-ce que ça te fait quand même plaisir de retrouver Guadalajara cette année avec un statut amélioré?
Oui, mais tout à fait. Puis d'autant plus qu'à chaque fois que le tournoi y est présenté, la foule semble très tennis là-bas. Les organisateurs, c'est un beau tournoi. C'est l'un des plus appréciés sur le circuit féminin. Puis tu l'as dit, là, du fait d'avoir 4 Canadiennes comme ça, c'est exceptionnel. Cependant, je suis un petit peu tiraillé, puis j'ai de la misère à me fixer par rapport à ce tournoi-là, parce qu'autant je me dis, autant je pourrais vous donner 4 bonnes raisons que les Canadiennes vont se rendre loin, autant je pourrais vous donner 4 raisons que ça va se terminer très tôt pour les Canadiennes. Donc, j'ai un petit peu de difficulté à me fixer. Tu l'as dit, un tableau extrêmement relevé. Il y a plusieurs bonnes joueuses. Il faut le dire, les gars, là, ceux qui n'ont pas le tableau sous les yeux là, pour les auditeurs qui nous écoutent, en tout cas, c'est mon avis bien personnel, mais le haut du tableau, est vraiment pas simple pour toutes les filles. On retrouve plusieurs joueuses qui ont connu de bonnes saisons. Paula Badosa, Coco Gauff, Jessica Pegula,
Tomjanović,
Garcia.
Tomjanović.
Tomjanović aussi. Puis tu sais, on a un petit... Il y a une Kvitova qui peut faire des ravages. Bencic aussi. Tandis que dans le bas du tableau, c'est un peu moins serré. Oui, à Sakari, oui, à Sabalenka, Kudermotova et notamment Lizzie Cornet, mais le haut du tableau dans lequel se retrouvent notamment Rebecca Marino, Leila Fernandez, Bianca Andreescu est très relevé. Donc, c'est pour ça que je dis que malgré le talent des filles canadiennes, ce sera difficile de percer en raison de la compétitivité dans cette portion de tableau. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on aura droit à tout un tournoi.
Ben, messieurs, parlons-en des Canadiennes, puisqu'on y est. Commençons avec Bianca Andreescu contre Teichmann. Bon, c'est déjà pas si simple que ça au premier tour. Andreescu non plus, on sait jamais à quoi s'attendre contre n'importe qui, parce que si elle est en forme, elle est peut-être une des meilleures joueuses au monde. Puis si elle est pas en forme, ben écoute, elle a été rassurante dans les derniers mois, mais quand même, à quoi on s'attend de ce match-là, messieurs?
Je pense qu'une 36e mondiale, c'est à la portée de Bianca. Elle joue quand même bien en ce moment. Là. Il y a eu des belles performances, notamment contre Coco Gauff, là, même si elle a perdu son match en 3-7. Donc, je m'attends à ce que Bianca passe un tour ou deux. Encore une fois, si elle est sur un rythme et ça va bien, elle peut se rendre assez loin. Mais oui, c'est un tableau qui va être compliqué. Potentiellement, une Kvitova au deuxième tour. Mais moi, j'ai confiance en Bianca si elle est dans de bonnes dispositions. Pour vaincre presque tout le monde encore sur un tableau.
Nico?
Oui, puis n'oubliez pas que les Canadiennes font bien au Mexique habituellement. Leila Fernandez a connu a gagné ces deux tournois-là. Eugénie est tout le temps extrêmement bonne lorsqu'elle est de passage au Mexique. C'est comme si, la température du Mexique allait bien aux Canadiennes, je ne sais pas trop. Mais oui, Bianca, c'est un tableau assez relevant, on l'a dit, un premier tour pas simple. Ensuite, si ça va bien, possiblement Jessica Pegula en ronde des 16. Ce ne sera pas évident, mais c'est le moment pour elle d'engranger des points parce qu'elle a été blessée si longtemps qu'elle a juste ça à faire, gagner des points. Elle a très peu à perdre. Donc, pourquoi pas Bianca cette année à Guadalajara?
Ouais, elle a un tableau compliqué, là, comme tu le dis. Elle a potentiellement Kvitova au deuxième tour, Pegula, comme tu le soulignais. Après ça, c'est peut-être une Belinda Bencic ou une Leila Annie Fernandez. Qui sait, peut-être qu'elle pourrait se rendre dans ce... Leila, elle joue contre Belinda Bencic au premier tour. Ça pourrait être Leila. Elle a pas un tableau facile, Bianca, mais effectivement, si elle est en forme, c'est définitivement une adversaire de premier tour à sa portée. Ici, je peux ajouter à l'information, messieurs, la dernière fois que Teichmann et Andreescu se sont affrontés, c'était justement au Mexique, c'était à Acapulco. Ça se passait en 2019. C'est quand même un petit bail, là, dans le monde du tennis. Mais Bianca Andreescu avait réglé les choses en 2-7 de 6-1 et 6-3. Alors, la Canadienne va avoir toutes les raisons au monde là, de pouvoir arriver avec beaucoup de confiance dans ce match-là. Monsieur, je parlais de Leila Annie Fernandez. Allons la voir, son match de premier tour contre Belinda Bencic, qui est la 10e tête de série. Hugues, tu t'attends à quoi?
Je sais pas trop, honnêtement. Je pense que c'est un des premiers tours les plus difficiles là, pour nos Canadiennes avec Bencic, qui a quand même une très bonne saison. Leila, on sait pas trop dans quel état elle est vraiment. Elle a besoin de victoire, en tout cas, donc elle va être là avec le couteau entre les dents. On sait qu'elle avait bien performé effectivement au Mexique l'an passé. J'ai de la difficulté, je l'ai pas mis gagnante dans mon jeu des prédictions sur son premier tour, mais qui sait, ça risque d'être un match très serré, mais je me risquerais à prédire un 3-7 pour celui-là.
Moi, je vais te voir une information qui aurait peut-être changé ma... si je l'avais vérifié avant de faire mon choix. Là. Mais Nico, je suis curieux de t'entendre avant que je vous donne mon information que je viens de voir. Tu t'attends quoi de Fernandez contre Bencic? C'est sûr que c'est un tirage au sort qui est pas... c'est pas un tirage au sort de rêve.
Ouais. Puis d'autant plus que c'est deux joueurs, ce que j'aime beaucoup Bencic. C'est une fille un petit peu qui est très lisse, qui a un très beau jeu, qui est très... fluide sur le court, mais qui peut en même temps être très agressive, très vorace, très coriace. C'est pour ça que contre Leila, ça fait un beau clash. Néanmoins, Leila, c'est plus difficile. Cette année, on ne se le cachera pas, tandis que Bencic connaît, elle est très constante, l'une des plus constantes sur le circuit. Je ne vois pas pourquoi ça irait mal pour Bencic. Tandis que pour Leila, elle qui est un petit peu en reconstruction encore, je pense que ce sera un premier tour extrêmement complexe pour la Canadienne.
Mais Leila est quand même 2-0 en head-to-head. Hein, donc,
c'est ça que j'allais dire, c'est que bon, ils se sont affrontés ces deux-là cette année. D'ailleurs, ça se passait à Roland-Garros à Paris, puis Leila l'a emporté, et comme tu dis, elle mène 2-0. Et je vois que Bencic, bon, même si elle a connu un bon tournoi il n'y a pas si longtemps, avec une demi-finale, ça lui a tout pris pour battre Eugénie Bouchard à Ostrava la semaine passée. Alors, est-ce que ça veut dire que Bencic n'est pas à 100%? Parce qu'on se doute que, on l'aime tous, Eugénie Bouchard, là, mais en ce moment, c'est pas une fille du top 50, c'est pas une fille du top 30. Là. Alors, si ça te prend tout pour battre Eugénie Bouchard et que tu as une fille qui t'a battu deux fois avant, peut-être que avoir vu cette statistique-là, j'ai fait mon tableau un peu rapidement, j'ai l'impression. Écoute, moi, je l'ai fait perdre au premier tour également parce que Bencic, c'est quand même la 14e joueuse mondiale présentement.
Attention à Eugénie, Alex. On la discarte en ce moment là, avec son classement qui ne correspond pas à la réalité de son jeu, selon moi. Là, elle est dans les 300 ou 400, quelque chose même. Là, elle commence à se refaire des points. Et cette semaine, ça va l'aider beaucoup de jouer sur un WTA 1000. Donc, merci pour le laisser passer. Mais Jimmy Connors, qui l'a coaché pendant quelques mois, il y a 4 ou 5 ans, a dit Eugénie joue son meilleur tennis en ce moment. Donc, on verra si ça se concrétise par des grosses victoires, mais je pense qu'il ne faut pas non plus se fier à la performance de Bencic contre Eugénie pour évaluer son jeu. Ça se trouve, Eugénie a joué un très bon match.
Ben, on reviendra à Rebecca qui est un peu plus haut dans le tableau. Allons-y tout de suite sur Eugénie dans ce cas-là, messieurs. Elle affronte Kayla Day, que moi, pour être bien transparent, je n'ai jamais vu jouer de ma vie, mais si on regarde la fiche entre les deux, Eugénie l'a déjà battue, ça se passait en 2019 à Newport, Eugénie l'avait emporté. Alors, bon, il y a déjà une base, elle connaît peut-être déjà un peu le style de joueuse. Kayla Day, elle est 122e mondiale. C'est un bon tirage pour Eugénie. Elle est 194e mondiale. 122e, c'est son meilleur rang en carrière. Alors, ça vous donne une idée du type d'adversaire. Alors, Nico, c'est prenable pour Eugénie?
Ouais, en même temps, je suis
t'as beaucoup de confiance.
dans le sens que je suis comme dans l'abandon pour Eugénie. J'ai pas envie de me faire d'attente. On peut pas se faire d'attente parce qu'on sait pas ce que ça va donner. On sait pas son niveau, il est où, il est comment. On connaît pas son adversaire. Donc, qu'elle perde ou qu'elle gagne, tout va dépendre de la manière dont c'est fait. Parce que j'aimerais mieux qu'Eugénie perde un excellent match, qu'elle gagne un match où elle se serait faite briser par n'importe quel autre adversaire. Donc, la manière va être extrêmement importante. J'ai pas d'attente. Alors, voyons voir. C'est sûr qu'en fait, les prédictions, c'est moins sexy de se prononcer après.
c'est surtout moins éthique.
Exact. Mais je suis carte blanche pour ce duel-là, complètement.
Ouais. Ben, moi, je remarque un truc, les gars, c'est que malgré son classement, les organisateurs du tournoi la font jouer demain seulement. Donc, ils la font jouer comme si elle était mieux classée, en fait, qu'une Bianca ou qu'une Leila. Évidemment, son statut de finaliste en 2021 a sûrement aidé à ce choix-là. Mais on voit encore quelle importance les organisateurs voient sur le nom Eugénie Bouchard pour lui donner sûrement une très belle fenêtre pour son premier match qui aura lieu demain mardi. Donc, on verra bien. Mais moi, je vous dis, elle peut nous surprendre sur ce tournoi-là. Je l'ai mis gagnante sur quelques tours, en fait, à Guadalajara. Je pense qu'elle est smart. Elle sent l'opportunité. Il y a beaucoup de points aller chercher. Il y a des sous à aller chercher sur un WTA 1000 qui a une très belle dotation. Donc, je m'attends à une semaine surprenante d'Eugénie.
Ouais, puis elle a quand même fait un beau quart de finale à Chennai en Inde. Elle a fait... c'est une fille qui peut avancer dans les tournois en dépit du fait qu'elle n'a pas joué beaucoup récemment. Et s'il fallait qu'elle passe le premier tour, messieurs, elle affronterait potentiellement une de tes favorites, Nico, Ostapenko, qui est pas celle qui fait la plus l'unanimité sur le circuit, mais elle fait l'unanimité dans le cœur de Nicolas Richard.
Ouais, bon, c'est un petit peu moins qu'avant, là. Faut se le dire, elle est moins flamboyante qu'à une certaine époque.
Elle est moins unanime dans ton cœur.
Ouais, mais non, mais c'est juste que bon, lorsqu'elle a gagné le Roland Garros, elle était le phénomène sur le circuit. Rien ne semblait être à son épreuve. Ça s'est estompé un petit peu, mais c'est une battante. Il faut jamais la compter pour battue. Et contre Eugénie, ça donnerait tout un clash, je pense.
C'est vrai, hein, c'est deux caractères.
Elle reste un phénomène dans sa tête, je pense, à Stapenko maintenant, mais je pense qu'Eugénie aura l'appui du public dans ce match-là. Donc, j'aimerais bien voir cette confrontation-là, Stapenko-Bouchard.
Ouais, ben, ça serait, tu sais, Eugénie, c'est jamais banal, là, ces matchs-là. Alors, je serais curieux de voir ce match-là. Et déjà, si Eugénie passe le premier tour, ça pourrait dire, elle pourrait dire mission accomplie. C'est quand même un tournoi de niveau 1000. Et c'est une fille qui est en recherche de sensations, là. Alors, ben, tant mieux si elle peut avancer dans le tournoi. Et messieurs, Rebecca Marino qui va affronter Lee, ça, c'est une autre joueuse que moi, je ne connais pas beaucoup. Elle est présentement 65e mondiale qui va affronter Rebecca, qui connaît une de ses meilleures saisons, peut-être sa meilleure saison depuis son retour. Ben, à quoi s'attendre, Nicolas? Est-ce que tu t'attends à l'avoir passé le premier tour contre Lee?
Ben oui, pourquoi pas, elle est tellement connue de bons moments, elle semble inspirée par les temps qui courent. Ce que je redoute un peu plus, c'est le deuxième tour. S'il fallait qu'elle gagne ce match-là, elle affronte Caroline Garcia, possiblement la joueuse, l'une des trois meilleures joueuses cette année. Donc, je pense qu'il faut modérer nos attentes pour Rebecca. S'il y en a une qui, je pense, ça pourrait être la Canadienne qui se rend le moins loin dans ce tournoi-là, compte tenu de son affrontement au deuxième tour. Mais comme un petit peu comme Eugénie, là. C'est un tournoi 1000. Gagner un premier tour, ça peut changer la donne au niveau budgétaire, au niveau des points de classement. Donc, simplement se concentrer sur la prochaine victoire, je pense que c'est sur quoi Rebecca doit se concentrer.
Hugues, commentaire oui. Sur la victoire potentielle de Rebecca.
Oui, ben je la sens capable justement de gagner ce match-là. Anne-Lee, donc l'Américaine qui a plafonné un peu cette année après une belle progression là depuis 2017. Là, elle est à la 65e ou 66e place, 65e. Ça, c'est le range qui est tout à fait accessible pour Rebecca, surtout dans l'année où elle est en ce moment. Elle joue en haut de top 100, là, Rebecca Marino, en ce moment. Donc, je pense qu'elle peut aller chercher ce premier tour-là. Et le clash avec Garcia sera vraiment intéressant. Nico, tu l'as dit, Garcia, une des joueuses en forme de la deuxième partie de l'année du côté féminin, avec notamment une victoire à Cincinnati. Mais je pense que Rebecca va passer un tour. Elle est fière de son année, elle est en paix, Rebecca Marino. On l'a côtoyée quand même pas mal, Alex et moi, notamment à Granby, puis plus récemment lors du passage de Billie Jean King à CA2 Montréal. On a pu lui parler beaucoup. Je trouve qu'elle a l'air vraiment bien, Rebecca, en ce moment. Elle est sélectionnée pour les finales de la Coupe Billie Jean King aussi, qu'on va suivre avec attention au début novembre. Donc, je pense qu'elle va arriver dans de bonnes dispositions à Guadalajara et qu'elle passera au moins le premier tour.
Ouais, ben ça se pourrait très bien. Nico, tu voulais acheter quelque chose?
Non, j'allais juste que le match ait commencé là. C'est parti là, pour Rebecca. Alors, donc,
évidemment, on enregistre le lundi en début d'après-midi. Là. Autre match à surveiller, messieurs, rapidement, on va parler peut-être d'une championne potentielle. Il y a Sloane Stephens qui va affronter Frovirtova. Là. Alors, championne de Grand Chelem contre peut-être un des plus beaux espoirs du tennis en Frovirtova, là. La Tchèque, là, la jeune Tchèque, on en parle. On en parle de plus en plus régulièrement d'elle. Alors, elle va être à suivre. Si je vous demande une prédiction rapide, messieurs, Nico, je sais que Paola Badosa est la première tête de série. C'est elle aussi une de tes joueuses préférées. Est-ce que tu la vois aller jusqu'au titre?
Oui, c'est l'une de mes joueuses préférées. Petit ralentissement cette saison. Elle est moins ressortie du lot, faut se le dire, faut être honnête. Celle que je vois aller jusqu'au bout, c'est Coco Gauff. Les gars, elle va tellement bien ces temps-ci, que ce soit en simple ou en double. Elle semble inébranlable. Elle aussi sera des finales, mais en double avec sa compagne Jessica Pegula. Ce sera vraiment tout un tournoi. Écoute, il y a Coco Gauff, il y a Caroline Garcia qui peut ressortir du lot. J'élimine pas non plus Sabalenka, ni Danielle Collins qui a connu tout un tournoi US Open. C'est tellement difficile, mais pour ce tournoi-ci, Coco Gauff semble être dans de bonnes dispositions. Alors, pourquoi pas une victoire au Mexique pour la jeune américaine?
Hugues, tu haches la tête, tu es d'accord avec son choix?
100% d'accord. Dans mon carré d'as, donc j'ai mis une demi-finale entre Pegula et Coco Gauff, les deux joueuses amies, joueuses de double qui jouent très bien, qui ont d'ailleurs gagné la semaine dernière à San Diego. Donc, je pense que ça serait une super demi-finale et je pense que Coco Gauff va remporter ce tournoi-là. Et je vois Krejcikova qui a bien joué récemment, qui a battu Swiatek, là, qui pourrait potentiellement se retrouver en finale. C'est mon choix pour la finale, en fait, le Gauff, Krejcikova et avec Coco Gauff comme gagnante.
Ah ben ça, c'est intéressant parce que moi, ma demi-finale, messieurs, c'est Coco Gauff également contre Bianca Andreescu.
Oh, on aime ça, on aime ça.
Je lui donne le crédit. Mon autre demi-finale est un peu moins surprenante parce que je suis allé avec presque la logique respectée, là, Maria Sakkari et Aryna Sabalenka. Je pense que Sabalenka, elle est due, comme on dit. Et j'ai une finale Coco Gauff-Sabalenka, mais avec une victoire, moi aussi, de Coco Gauff. Messieurs, je pense que c'est la première
fois. On est unanime.
Je pense que c'est la première fois de la saison qu'on prédit les trois la même victoire. Donc, on va passer pour des génies en équipe ou des tatans en équipe.
Et Gauff sortira au deuxième tour.
Gauff perd au premier tour, là, passe complètement à côté de son match, puis c'est un extrait qu'on ne rejouerait pas. Messieurs, écoutez, ça va être intéressant à suivre, là, quelques Canadiennes, c'est un match intéressant, on t'en parlait en début d'émission, Nico, il y a du tennis d'automne bien intéressant présentement, puis Guadalajara va ajouter à cette séquence-là avec autant de Canadiennes pour nous. On va faire une courte pause, messieurs, puis au retour, on va parler de Daniel Nestor, et on va jeter un œil aussi de ce qui va se passer chez nous au Saguenay.
Séjournez dans l'une des magnifiques suites de l'hôtel Montville et profitez d'un rabais de 30% sur votre deuxième nuitée. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver. Venez prendre un verre au bar et restaurant Monem de l'hôtel Montville. De nombreux cocktails signature conçus pour la saison d'automne vous y attendent. Découvrez le menu sur le site hotelmontville.com.
De retour en direct de l'hôtel Montville. Vous écoutez la radio. Podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Messieurs, c'est Hugues qui m'a fait part de cette nouvelle-là. Daniel Nestor est considéré pour le temple de la renommée. J'oserais dire, il n'est pas trop tard, mais il était temps.
Oui, il sera sur le bulletin pour la sélection 2023, pour qu'il sera présenté à Newport au Temple de la renommée du tennis. Entièrement mérité. On a souvent parlé, là, un des plus grands joueurs de double de l'histoire, tout pays confondu. Champion olympique notamment, champion de Grand Chelem à plusieurs reprises. Et t'as raison, il était temps. Donc, j'ai bien hâte de voir s'il va être sélectionné. Mais si, encore une fois, les circuits, notamment l'ATP dans ce cas-ci, est sérieux de faire la promotion du double aussi. Il faut reconnaître la carrière d'un joueur comme Daniel Nestor qui a été un modèle et de régularité aussi et de longévité en double.
Nico?
Ben, on l'a répété souvent, je pense que si on exclut Félix Auger-Aliassime, il est le plus grand joueur de l'histoire du tennis canadien, point barre. C'est pas plus compliqué que ça. Il a tellement bien fait dans sa carrière, tellement... Du côté masculin, bien évidemment. Oui, le double, mais si peu, parce que il a tellement gagné, il a tellement dominé son sport. Si ce n'était pas des frères Bryant, il serait possiblement le plus grand joueur de l'histoire du double, point. Alors, c'est une évidence même qu'il faut qu'il soit au temple de la renommée.
Je suis en train de vérifier, messieurs, les membres américains du temple de la renommée, avec Andy Roddick étant le dernier intronisé, mais... Les frères Bryan n'y sont pas encore. Alors, est-ce qu'ils sont sur le bulletin également, ou est-ce qu'il y a un délai après la retraite, peut-être? Enfin, les frères Bryan vont y être. Il le faut, et je pense que dans l'histoire des joueurs de double, Daniel Nestor vient tout juste après les frères Bryan. Alors, je pense que ce sera plus que mérité dans le cas de Daniel Nestor. Je me souviens, quand il avait annoncé sa retraite, que c'était son dernier tournoi ou à peu près, là, il y avait Federer qui avait fait partie des remerciements puis des félicitations. Alors, j'imagine que Federer fait pas des vidéos de félicitations pour tous les joueurs qui se retirent. Là, je tomberais en bas de ma chaise si c'était le cas. Je pense qu'il reconnaissait la grande carrière de double de Daniel Nestor, et c'est certainement un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire, point, parce que c'est le double n'a pas la même notoriété, mais quand on regarde la façon dont il a performé sur une si longue période de temps dans son sport, écoutez, c'est, pour moi, c'est même pas une question. Ce gars-là devrait être un membre du temple de la renommée du tennis. Je sais pas si les gars, vous avez des contre-arguments pour ça. Nico, je sais pas qu'est-ce que t'en penses.
Non, pour moi, c'est un no-brainer, comme on dit dans le milieu.
Non, je suis d'accord avec ça. Messieurs, avant qu'on aille faire un petit tour au Saguenay, je veux vous entendre parce que Il y a deux mini-controverses du côté du tennis féminin. D'abord, allons-y avec Swiatek. Là, Nico, je ne sais pas si tu as vu ça, se fait reprocher quand elle est au filet de lever les bras pour essayer de, bon, virtuellement déranger son adversaire. Je ne sais pas si tu as vu ces séquences-là, mais ça a fait un peu le tour des médias sociaux. Hugues, bon, c'est la numéro 1 mondiale, elle est charmante à souhait.
Oui.
Mais c'est un peu la première bribe de controverse qu'on a dans son cas, là, à ma connaissance, en tout cas.
Moi, j'ai été étonné de voir ce geste-là. J'ai pas vu le match en détail. Je sais pas ce qui s'est passé, mais écoute, moi, un joueur fait ça contre moi en match, on aurait une bonne discussion tout de suite après le point, là. C'était pas subtil, là. Elle a vraiment fait elle a fait le grand écart pour essayer de distraire son adversaire, où les deux joueurs étaient près du filet, en plus. Drôle de situation. Étonné que l'arbitre n'a pas donné le point à son adversaire parce que clairement c'était dérangeant avant que la joueuse frappe la balle. Donc étonnant. Puis Swiatek, oui, reconnu comme une fille extrêmement gentille, humble et tout ça. Là, moi, j'ai que des bonnes choses à dire sur Swiatek, sur ses performances et ce qu'elle dit quand elle s'exprime en public. Donc c'est un geste regrettable. Là, je sais pas trop pourquoi elle a fait ça. En fait, c'était assez bizarre comme situation.
Ouais, ben en tout cas, je sais pas si c'est spécifiquement dans le livre des règlements que t'as pas le droit de faire des mouvements qui pourraient déranger l'adversaire au filet, mais c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Nico, toi t'es un puriste du tennis, ça doit être quelque chose qui te fait te faire arracher les yeux.
Surprenamment, non.
Je sais plus quoi penser de ça, pas de mon équipe.
Surprenamment, non. Parce que dans la mesure où, en tout cas, ça c'est mon avis personnel, en tant que qu'ancien joueur, entre guillemets, s'il n'y a pas de bruit, s'il n'y a pas de, s'il ne crie pas, s'il ne parle pas, pour moi, ça change pas grand chose, ultimement, au filet. Puis, tu sais, c'est pas non plus, pour ceux qui ont vu la séquence, ça dure pas 8 heures, là, il est pas là. Enfin, c'est comme un peu les gardiens avant un penalty. Pour moi, ça fait partie, c'est une motion. Bon, elle le fait pas tout le temps non plus. Faut pas non plus exagérer en disant qu'elle fait ça à tous les points, là. Mais de le faire une fois de temps en temps, tu sais, ça, on service par en dessous. Ces deux alternatives, dans le cas de Swiatek, ça a fonctionné. Ouais. Mais pour moi, tant qu'il n'y a pas de bruit ou de cri, ça ne me dérange pas outre mesure, surprenamment.
Si je peux ajouter un petit truc, effectivement, quand tu sais que tu es une cible au filet, que le point devrait être gagné par ton adversaire, ce qui était un peu la situation, là, elle était un sitting duck au filet, comme on dit, là, elle était vraiment pas dans une position où elle n'avait pas grand-chance de gagner le point. Il va y avoir des feintes, des fois, qui vont se faire pour essayer de distraire un peu le joueur. Mais là, c'était comme un jumping jack. Là. C'était vraiment particulier. Mais bon, je pense que ce qu'on a vu, c'est un événement unique. Là. Je m'attends pas à revoir ça encore de sa part, mais ça n'a pas passé inaperçu quand même.
Parlant de choses qu'on voit souvent ou pas souvent, ben il y en a une qu'on voit souvent, c'est-à-dire un coach être congédié par Radu Canu. Messieurs, je ne sais pas si vous avez une opinion sur le carrousel des entraîneurs de Emma Radu Canu. Quoi penser de ça? Évidemment, elle a... C'est la gang de la deuxième année, là, disons ça non, comme ça.
Mais... Plus que ça, là, plus que ça.
Écoute, débandade de la deuxième année.
Quatre coachs en un an. Le dernier en liste, Dimitri Tursunov. C'est rendu à un point où les joueuses, certains ex-joueurs commencent à se poser des questions sur la crédibilité de Radu Canu. Je pense notamment à Navratilova qui s'est exprimée sur le sujet. Moi aussi, je suis dans le groupe des sceptiques pour Radu Canu en ce moment. Là, je pense qu'elle doit recommencer à prouver qu'elle peut gagner. Ça fait un an et plus, le US Open, là, elle est nulle part encore. Et je pense que ces portes tournantes au niveau des coachs, ça augure rien de bon. Là.
Go.
J'avais cette discussion-là un petit peu avant, le US Open avec Séverine, qu'on connaît sur le podcast, qui est la référence.
Lance-la en dessous de l'autobus.
Non, mais au contraire. Puis, c'est pas vrai, ce qu'elle dit en gros, c'est que dans cette situation-là, où on est nous à l'extérieur, qu'on n'est pas dans l'entourage de Radu Canu, c'est difficile de savoir si le problème, c'est Radu Canu ou si ce sont les entraîneurs qui ne lui donnent pas ce qu'il faut pour aller plus loin. Radu Canu, c'est une jeune joueuse qui a besoin de se faire guider. Lorsqu'elle se fait délaisser comme ça, que ce soit par ses entraîneurs, par son entourage, elle a besoin d'un ancre à laquelle se tenir. Et là, présentement, elle n'a personne. Elle navigue seule dans ses eaux troubles parce que c'est une saison extrêmement complexe pour elle. Donc, c'est de savoir, est-ce que c'est elle le problème ou bien ce sont ses entraîneurs qui sont pas capables de la ramener ou de lui dire ce qu'elle a besoin d'entendre. On n'est pas dans le secret des dieux. C'est vrai que c'est curieux comme situation. Ça rappelle un petit peu ce qu'Eugénie a vécu lorsque...
Je pense pas qu'elle en a passé quatre dans une année.
Non, mais dans le sens où on se demandait, est-ce que c'est elle le problème ou ce sont les entraîneurs qui ne fitent pas, pardonnez-moi l'expression, avec elle? Évidemment que c'est curieux. Évidemment que Raducanu devra adresser et redresser la barque parce que présentement, c'est pas bon ni pour elle, ni pour le tennis, ce qui se passe avec elle présentement. Mais pour moi, il y a des questions qui sont beaucoup plus importantes que pourquoi Raducanu va pas bien, tu sais.
Ouais, la question, c'est comment son entourage aussi la conseille. Effectivement, j'ose espérer que ces décisions-là ne sont pas prises par elle seule, parce que là, on pourrait se dire, bon, est-ce qu'il y a un problème de d'expérience ou de connaissance pour faire un choix éclairé? Mais je pense que moi, si je suis son agent, les personnes qui sont ses conseillers près d'elle, ils doivent bien réfléchir à quelle décision ils prennent pour la suite, parce que oui, c'est une année qui est compliquée. Là, elle a une fiche négative pour cette année. Elle est maintenant 68e mondiale. Je pense qu'elle a deux défaites de plus que de victoires cette année. Elle joue pas pour 500. Elle a eu des blessures aussi, mais il faut stabiliser cette situation-là. C'est quand même inédit, c'est inhabituel. Oui, elle a le poids de ce US Open-là qu'elle doit défendre. Enfin, qu'elle n'a pas défendu, mais qu'elle a toujours avec elle. Elle a ses commanditaires majeurs qui ont signé avec elle dès la fin du US Open 2021. C'est beaucoup pour une jeune fille de son âge. Mais donc, elle est 17 et 19 pour cette année, là. 17 victoires, 19 défaites. Mais il faut régler ce problème-là, là. C'est un enjeu qui est trop distrayant, là, pour pouvoir se concentrer sur son tennis et recommencer à progresser. C'est long, un an, quand même. C'est long.
Puis la raison pour laquelle elle est pas plus bas au classement, c'est qu'elle avait presque pas de points à défendre avant le US Open. Et avec ses points de Wimbledon et du US Open l'année passée, elle a pu rentrer dans plein de tableaux principaux où elle a fait des points gratuits, même si elle perdait. Alors, si c'est l'année prochaine, si les choses se redressent pas, Nico, comme tu le dis, ça pourrait continuer à glisser. Cela dit, j'aime la nuance que tu apportes, Nico, c'est qu'on n'a pas de l'information parfaite non plus. On ne sait pas comment ça se passe à l'intérieur. Est-ce qu'il y a eu des affaires bizarres qui se sont passées avec les coachs? Puis là, on a dit merci, ciao, bye. Est-ce que des fois, c'est juste la personnalité? Est-ce qu'elle a été malchanceuse et a tombé sur 3-4 coachs consécutifs que, garde, ça ne marchera pas, puis tu sais tout de suite? Bon, on n'a pas de l'information parfaite à ce niveau-là. Évidemment que c'est pas commun de voir ça, mais bon, là, j'aime ta nuance de dire que attendons, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur.
Ben, c'est parce qu'ultimement, je pense que présentement, ce que Emma Raducanu a besoin de se faire dire, c'est soit toi-même, progression, faisons confiance au processus, et peut-être un jour, tu retrouveras le chemin de la victoire et tu retrouveras la gloire que tu as connue à New York. Mais là, si les quatre entraîneurs qu'elle a engagé, lui disent « Là, l'an prochain, tu gagnes l'Australie, tu gagnes Wimbledon, puis on fait une finale à Roland-Garros, c'est sûr que ça ne marchera pas. C'est sûr qu'il y a un clash. » Alors, si ces entraîneurs-là qui veulent profiter de son talent, parce que, mine de rien, elle est extrêmement talentueuse, on ne gagne pas un US Open par hasard en partant des qualifs, mais si les entraîneurs ont des attentes qu'elles-mêmes savent qui sont impossibles à atteindre à court terme, c'est sûr qu'il y a un clash. Parce que c'est évident que lorsque tu es un entraîneur, tu veux connaître du succès, tu veux être payé, tu veux être avec la meilleure joueuse au monde, mais il faut prendre son temps. Si Raducanu n'est pas prête, elle, à fixer des objectifs aussi grandioses que de remporter un autre grand chelem, c'est sûr qu'il y a des clashs. Puis je me mets dans la position d'un entraîneur. Évidemment que tu veux amener ton athlète à un autre niveau, sachant qu'elle l'a déjà fait. Mais pour Raducanu, si elle n'est pas à la même place, puis tu sais, les gars, lorsque ça allait moins bien pour Bianca Andreescu l'an dernier, on se disait... Il me semble qu'une petite pause de tournoi, il me semble qu'un petit un mois et demi, deux mois à l'extérieur des cours, à l'extérieur de tout ce
qui concerne. Il fallait un reset, effectivement.
Exactement. Ouais. Un petit peu comme Osaka, on l'avait proposé aussi à Osaka. Pourquoi pas Raducanu prendre une petite pause jusqu'en Australie l'an prochain? Pourquoi pas juste décrocher, se recentrer, parler avec son thérapeute, parler avec son ou sa psychologue sportive, juste pour décrocher, revenir aux bases et repartir 2023 sur de plus belles bases, parce que là, c'est un capharnaüm, c'est une espèce de collection de mauvais pas, et ça peut juste nuire à la progression de Raducanu. Alors, pour elle, je pense que de prendre une petite pause, ce serait très, très, très bénéfique.
Hugues, si ça te dérange pas, rapidement, je vais faire ton rôle habituel de ça. Quel tournoi doit-on surveiller cette semaine? Parce qu'on va jeter un œil rapidement sur ce qui va se passer au Saguenay. C'est un tournoi, vous voyez là, ici, je l'ai mis à l'écran, un 60 points. Il n'y a pas de grands noms qui sont là dans ce tournoi-là. Là, évidemment, c'est un tournoi de second niveau. Mais on va surveiller la Canadienne Kayla Cross, notamment, qui s'est qualifiée pour ce tournoi-là. Il y a une autre Québécoise, Raphaël Leroux, qui est là, qui est une jeune femme de 16 ans, si je ne me trompe pas. Et il y en a une autre, Annika Lavoie, qui a reçu un laissez-passer. Elle, c'est une jeune fille de 14 ans. Alors, il y a peut-être des espoirs intéressants du tennis à surveiller. D'ailleurs, Abraham Santerre et Nicolas Bergeron sont au Saguenay puisqu'ils utilisaient la Jonquière et elles sont accréditées pour le tournoi. Vous voulez avoir des nouvelles du tournoi? Ben, nos deux reporters sur le terrain vont assurer une couverture là-bas. Et si vous avez une chance d'aller faire un tour au Saguenay, même s'il n'y a pas des grands noms, des gros noms, ça peut valoir la peine de découvrir des espoirs. C'est un peu comme le hockey junior. Tu peux dire, elle, je l'ai vu jouer avant qu'elle explosait. C'est ce genre de tournoi-là qui peut être intéressant à voir au Saguenay. Messieurs, je vous remercie infiniment pour l'épisode. On a déjà busté le timing, comme on dit. Alors, Nicolas Richard, si ça ne te dérange pas, je vais te donner la lourde tâche, l'importante tâche de terminer l'émission.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, tout le monde.
Et les gars, chapeau Valov à Stockholm, tournoi qu'il a gagné il y a 2 ans.
Alors, tu fais bien de le mentionner. Nicolas Richard, refais donc une fermeture d'épisode.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, tout le monde.
Bye-bye.